Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Pauline Garrick. Pauline, bonjour.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter en une petite minute sur qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien ? C'est quoi ton job ?
Yes, avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai deux casquettes chez Binext. J'ai une casquette de RH Advisor, où je vais m'occuper de tout ce qui va être stratégie RH et marque employeur. Et j'ai une casquette de coach où j'interviens en entreprise pour acculturer des équipes hors IT à l'agilité ou encore sur du conseil auprès de postures managériales. Et je fais également du coaching individuel.
Ok. Ce qui m'a donné envie d'échanger avec toi, c'est quand je suis tombé sur ton article « Apprendre à dire les choses ». On pourra mettre le lien dans la description pour les auditeurs. C'est vraiment quelque chose que je trouve de super intéressant parce que en tant que coach externe ou je sais même plus comment il faut l'appeler, consultant, ou des fois on m'appelle et je vois des entreprises qui passent beaucoup de temps en réunion, mais quand tu discutes un peu avec les gens, tu te rends compte qu'ils ne se parlent pas en fait. Ils se disent pas les choses qui sont vraiment importantes, comme les choses que tu peux avoir sur le cœur. Du coup, je vois des situations hyper conflictuelles alors que tout le monde a envie que les choses se passent bien. Et je trouve ça assez dingue. Toi, quel est un petit peu ton retour ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une formation sur apprendre à dire les choses ?
Alors, plusieurs constats. je partage ce constat dans la réunionnite aiguë où parfois on tourne autour des sujets sans vraiment se dire les choses, ou parfois peut-être un manque d'authenticité sans jugement, hein, pour plein de raisons différentes. Et puis parce que le sujet émotion, c'est encore un sujet où en entreprise, en tout cas, on est très pudique là-dessus. C'est un sujet qui est difficile. On a aussi énormément de formations autour de feedback, qui parlent de feedback sandwich. Alors là, je mets au secours, arrêtez le feedback sandwich. Et puis, on parle de communication en disant la communication, c'est autour de l'autre. Et j'avais un peu envie de désamorcer ça et de dire en fait, la communication, ça parle beaucoup de soi en fait.
Mais les gens communiquent essentiellement pour parler de soi en général.
De manière détournée.
Bien sûr.
Mais lorsque ça se passe mal ou lorsqu'il y a un conflit, c'est souvent vers l'autre qu'on se retourne.
Bien sûr.
Et l'intelligence sociale, elle est assez obscure pour beaucoup d'entre nous. Et on passe pas assez de temps à se poser des questions aussi sur nos besoins. Et c'est ce qui amène souvent à des quiproquos, à des désaccords et à des non-dits.
Ouais, dans ce que tu dis, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais les deux que je vais prendre déjà en premier. Quand tu dis en entreprise, les émotions restent assez pudiques. Je vais même aller plus loin. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui me paraît un peu fou, hein, mais un côté où pour être pro, faut quelque part être aseptisé de ces choses-là, comme si les émotions, c'était pas bien en fait, et un professionnel se laisse pas embarquer par ses émotions, il est en maîtrise totale. Il y a un petit peu ce côté que les émotions, c'est sale, quoi. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, alors c'est...
Peut-être que sale, c'est un peu fort, mais... Est-ce que c'est que c'est pas dans notre culture de parler de nos émotions ?
Alors... déjà, c'est pas dans notre culture. Je te donne un exemple qui m'a frappée, c'est que en faisant pas mal de recherches pour approfondir cette formation, je me suis aperçue que, par exemple, en Inde, qui est une culture complètement différente de la nôtre, à l'école et dès l'école primaire, ils avaient des cours sur l'intuition pour reconnaître des couleurs sur des cartes ou des animaux sur des cartes, uniquement à l'intuition. Mmh. Et donc l'intuition...
Super intéressant ça.
Du coup, sur la connaissance de soi, de ce qu'on ressent, de ses besoins, etc. Ça, aujourd'hui, chez nous, En tout cas, en France, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir des cours sur l'intuition dès le primaire, par exemple. Et on ne nous apprend pas, enfant. On ne nous apprend pas à ressentir des émotions. Je vais aller plus loin. On va même jusqu'à rendre certaines émotions soit mauvaises, soit ah, t'as ressenti de la colère, honte à toi, tu n'as pas le droit de ressentir de la colère.
Ok, donc on n'est pas forcément dans un bain culturel qui favorise ça, mais je veux dire, je pense que dans le cercle intime, personnel, on est déjà capable d'exprimer des choses. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à l'entreprise qui fait que on reste pudique, comme tu dis?
Ah, je t'avoue, c'est une bonne question. J'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. En tout cas, c'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Mais pendant longtemps, il n'y a pas eu de place parce que laisser libre cours à ses émotions, ça veut dire ne pas avoir de maîtrise de soi. Et si je n'ai pas, si je ne me maîtrise pas, eh bien, je ne vais pas être professionnel et je ne vais pas avoir le contrôle de mes actions.
Ce qui est quand même drôle, parce que de dire ses émotions, c'est justement le meilleur moyen de ne pas se laisser emporter par elles, en fait.
Et oui, mais il a fallu quand même attendre 1995 pour avoir un bouquin sur l'intelligence émotionnelle de Goleman, hein. Alors que quelques années avant, on en parlait, mais ça a commencé à se démocratiser en France en 95, ce qui est très récent au final.
Ouais, ce qui est quand même récent, en fait.
C'est très récent, et puis en plus, plus on est dans le contrôle de soi, plus bah, dans la culture d'entreprise, ça veut dire qu'on peut accéder à des postes, par exemple, de manager.
Le
Puisque
Graal.
on va pouvoir faire face à toute situation.
Je sens une pointe d'ironie dans ce que tu dis. Alors, il faut qu'on parle, parce que je vois la timebox qui file. C'est quoi ton problème avec le feedback sandwich? C'est quoi pour toi un feedback sandwich et qu'est-ce qui te plaît pas dedans? Vas-y, explique pour les auditeurs ce qu'est pour toi un feedback sandwich.
Alors, un feedback sandwich, bah, comme son nom l'indique, un joli sandwich, donc avec le steak qui va représenter le retour négatif, en tout cas, qu'on va faire à la personne, mais qui est joliment enrobé de deux tranches de pain de mie où on va mettre du positif. Et bah, c'est comme si là je disais oh, au fait, super hein, le document que tu as rendu à temps. Néanmoins, tu aurais pu te relire hein, sur les fautes d'orthographe. J'ai dû passer derrière toi et je suis restée jusqu'à minuit. Mais en tout cas, bravo pour le contenu. A priori, à la fin de cet échange-là, tu vas retenir uniquement le spec, qui sont les fautes d'orthographe. Et ton cerveau, en fait, n'aura pas entendu le feedback positif du fait que tu l'aies rendu à l'heure et que tu aies fait un joli contenu. Et donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à part repartir frustré et gamberger sur le côté négatif. Et encore là, je suis restée sur le même sujet, a priori, donc un très beau rapport qui était rendu dans les temps. Mais ce que j'ai observé en entreprise, c'est que ce feedback sandwich, des fois, on peut le faire sur même des sujets différents.
Ouais, là, c'est la fête du slip, là. Mais du coup, en fait, ce qui me... Alors, c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire des feedbacks dans mon parcours de coach. Et ça m'allait bien. Par contre, je dois reconnaître une chose, c'est qu'il y a des fois, j'ai l'impression que c'est faussé. C'est-à-dire qu'on cherche à mettre du pain de mie pour du pain de mie, alors qu'on se retient un peu et puis on envoie la purée sur le steak. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'est l'intention qui est biaisée, en fait. En fait, si tu as juste envie d'éclater la gueule du mec en face de toi et lui dire, mais en fait, t'as vraiment, putain, t'es mauvais en orthographe, et que tu mets du pain de mie juste histoire de rendre ça digeste, bah, le gars, il va le sentir, c'est clair. Si maintenant, tu as vraiment fait un effort d'aller chercher ce qu'il y a de positif, et que c'est sincère, et ton steak, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est vraiment un axe d'amélioration, je sais pas, j'ai envie de croire que ça marche, mais c'est vrai que l'autre, je remarque souvent, en formation, qu'est-ce que notent les gens, et moi le premier, ils notent surtout les axes d'amélioration. C'est que vers la fin de mon parcours de coach que j'ai commencé à noter les points positifs, parce que je me disais, mais en fait, si j'en vois qui ressortent, en fait, c'est que c'est vraiment des forces chez moi, et je peux aussi travailler sur ces sujets-là. Mais je reconnais que ça m'a pris du temps. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est si... Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, et qu'est-ce que tu proposes à la place?
Alors moi, déjà, ce que je propose, c'est de le faire sur des temps séparés.
C'est-à-dire le pain de mie d'abord et le steak après?
Non, de bien distinguer le retour positif que tu as envie de faire, bah, tu vas peut-être pas le faire le même jour, ou tu vas peut-être pas le faire au même moment. Et de bien séparer les moments où tu demandes ou proposes à quelqu'un de s'améliorer. À ce moment-là, c'est que ça. Et puis, dans un autre temps, bah là, tu peux l'encourager ou lui dire de capitaliser sur autre chose. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est de bien séparer les deux. Et il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit, et j'en parle justement dans cette formation Apprendre à dire les choses, c'est que tout est question d'intention. Et qu'au moment où on donne un feedback, où on cherche à en avoir, parce que ça marche aussi quand on a envie d'en recevoir, c'est de se poser la question de l'intention. Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que là, si j'ai envie d'aller demander du feedback, est-ce que c'est pour me rassurer? Est-ce que c'est pour valoriser mon ego? Est-ce que c'est pour m'améliorer? Dans quel cadre j'ai envie d'avoir ce feedback? Et de se poser aussi la question d'intention lorsqu'on a envie de l'offrir, de le donner. Et tant que l'intention est louable, même si le retour, le feedback, parfois est maladroit, même souvent, parce que on reste des êtres humains et la communication, c'est jamais parfait. Tant que l'intention est louable pour moi et qu'on s'est bien questionné avant et que le cadre instauré est... Alors, j'utilisais le mot bienveillant en espérant qu'il ne soit pas trop galvaudé, mais quand je parle de cadre, c'est de confiance, de confidentialité, d'espace, de respect. Tant que tout ça est bien OK pour l'un et pour l'autre, en général, le retour passe quand même bien.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et je vois la timebox qu'on a explosée. Je te propose que ce soit le mot de la fin, cette question sur l'intention. Merci Pauline d'être venue aujourd'hui. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils viennent où?
Alors, ils peuvent venir sur mon blog qui s'appelle Le Lab de Pauline, ou ils peuvent venir sur mon LinkedIn, mon Twitter... Et s'ils trouvent un joli pigeon voyageur, j'accepte aussi.
Alors, on mettra tout ça dans la description pour faciliter la vie des auditeurs. Merci Pauline.
Merci à toi.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager. Commence à dire les choses et peut-être que tu as envie de faire passer des messages à tes collègues. C'est un format justement que je garde court aussi pour permettre de le partager facilement à un café, à un petit moment que tu peux caler avec l'équipe. Et ça peut permettre de déclencher de belles discussions, en tout cas c'est les témoignages que j'ai eus, et je pense que cet épisode s'y prête assez bien, donc je t'invite à proposer une écoute avec tes collègues. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt.